Chapitre 6. Narva, sa cataracte. Berlin, la douane. Monsieur Rampache. La reine de Prusse, sa famille. L'île des Pans. Le général Bournonville. Je partais de Pétersbourg, triste, malade, et seul dans ma voiture, n'ayant pu garder ma femme de chambre, qui était russe, mariée et fort avancée dans sa grossesse. J'emmenais seulement un très vieux homme qui désirait aller en Prusse, à qui j'avais donné par pitié la place d'un domestique, ce dont je me suis bien repenti, car cet homme s'enivrait à chaque poste, au point qu'on était obligé de le reporter sur le siège. Monsieur de Rivière, qui m'accompagnait dans sa calèche, ne me fut pas d'un grand secours, surtout quand nous eûmes passé la frontière russe et que nous trouvâmes les sables, car les postillons, dont ils ne savaient pas se faire obéir, l'emportaient sans cesse par les chemins de traverse, tandis que je suivais la grande route. Je fis ma première station à Narva, petite ville bien fortifiée, mais laide et mal pavée. Le chemin qui y conduit est ravissant, bordé de maisons charmantes, de jardins anglais, et dans le lointain, on aperçoit la mer couverte de vaisseaux, ce qui rend cette route tout à fait pittoresque. Les femmes, à Narva, portent le costume des femmes de l'Antiquité. Elles sont belles, car en général, le peuple de la Livonie est superbe. Presque toutes les têtes de vieillards me rappelaient les têtes de crise de Raphaël, et les jeunes gens, dont les cheveux plats tombent sur les épaules, semblent avoir servi de modèle à ce grand maître. Le lendemain de mon arrivée, j'allai voir, à quelque distance de la ville, une magnifique cataracte. Une énorme quantité d'eau, dont on n'aperçoit pas la source, forme un torrent si fort et si rapide qu'il s'élève dans son cours sur des rochers énormes, dont il se précipite avec fracas pour surmonter d'autres rochers. Cette multitude de cascades qui se succèdent, s'élancent et s'engloutissent avec fureur, produit un bruit épouvantable. Comme j'étais occupé à retracer cette belle horreur, plusieurs habitants de Narva, qui me regardaient dessiner, me racontèrent un événement affreux dont ils avaient été témoins. Les eaux de ces cataractes, étant augmentées par de grandes pluies, avaient entraîné, avec une partie des terrains qui les bordent, une maison où logeait une famille entière. On entendait les cris de détresse de ces malheureux, on voyait leur affreux désespoir sans pouvoir leur porter aucun secours, puisqu'il était impossible au bateau de traverser le torrent. Enfin, ce spectacle affreux et déchirant fut suivi bientôt d'un spectacle plus horrible, lorsque la maison et la malheureuse famille, entraînées dans le gouffre, disparurent aux yeux de ceux qui me parlaient de ce désastre et qui en étaient encore émus. J'arrivai à Riga. Cette ville, comme Narva, n'est ni jolie ni bien pavée, mais elle est très commerçante, ainsi qu'on le sait, et le port est très beau. La plupart des hommes y sont habillés à la turque, à la polonaise, etc. Et toutes les femmes qui ne sont pas de la classe du peuple mettent pour sortir un voile de gaze noire sur leur tête. Je n'eus guère le temps de faire d'autres observations, car je me hâtais d'arriver à Mitao, où j'espérais trouver encore la famille royale. Mais j'eus le chagrin de venir trop tard et de ne pas les rencontrer, en sorte que je restais fort peu dans cette ville, où je n'étais allé que pour voir nos princes. L'état de notre esprit et de notre santé influe si fort sur les objets qui nous environnent que je me rappelais plus d'une fois alors avec quelle gaieté j'avais fait, en allant à Pétersbourg, le chemin que je venais de parcourir si tristement. Je me souvenais surtout que la vue de la Courlande m'avait ravi. Ces magnifiques forêts de vieux chênes, d'énormes sapins ou d'auniers, dont les troncs blanchâtres se détachent si bien sur leur feuillage qui ressemble à celui du saule pleureur, ces beaux lacs, ces charmantes collines, ces jolis vallons, mon imagination calme et heureuse animait tout cela par mille idées riantes ou poétiques. Dans les bois, je voyais Diane suivie de son cortège, dans les prairies, des danses de bergers et de bergères, telles que j'en avais vu à Rome sur les bas-reliefs antiques. Enfin, je charmais ma route. Mais au retour, plus de figures fantastiques, plus de danses joyeuses. Ma tristesse et mes souffrances avaient dépeuplé ce beau pays que je regardais à peine. Et pourtant, ce qui me restait à faire de chemin jusqu'à Berlin était de beaucoup le plus pénible, puisqu'il me fallait arriver à Memel et à Königsberg. En partant de Pétersbourg, j'avais bien pris la poste, mais nous avions rencontré à Riga la grande duchesse de Bade qui allait voir l'impératrice sa fille et qui ne laissait plus de chevaux sur notre route. Je fus obligé d'en prendre à des voiturins qui, au lieu de me mener coucher aux maisons de poste, me descendaient dans des espèces de cabanes où l'on ne trouvait point de lit et rien à manger, en sorte que le plus souvent, je passais la nuit dans ma voiture. Quant au repas, la soupe que l'on me donnait était faite sans viande, avec du mauvais beurre et des carottes. Si je faisais tuer un poulet, il était si maigre et si dur que M. de Rivière et moi, nous ne pouvions parvenir à le couper. Encore avions-nous à peine le temps de faire ce mauvais dîner, tant les voiturins étaient pressés de repartir. En route, nous étions tellement dans le sable que la voiture allait au petit pas. Il faisait une chaleur horrible. J'étais obligé, pour respirer, de laisser toutes mes glaces ouvertes et les deux postillons fumaient constamment. Cette vilaine odeur de pipe me tournait le cœur, au point que je préférais presque toujours aller à pied, quoique j'eusse du sable jusqu'à la cheville. Heureusement, on ne rencontre jamais de voleurs sur ces chemins. J'apercevais bien de loin quelques loups sur les hauteurs, mais apparemment ils avaient peur de nous car ils s'enfuyaient toujours à notre approche, de même que les pauvres cerfs effrayés par la calèche de M. de Rivière que je voyais souvent traverser la route. Dans l'état de maladie où j'étais, une manière de vivre aussi fatigante devait m'être fatale. Peu de jours suffirent en effet pour me jeter dans un accablement que tout mon courage et mon vif désir de ne point m'arrêter en route pouvaient à peine surmonter. Je devins si faible et si souffrante qu'il fallait me traîner dans ma voiture, où je restais comme sans mouvement, privé même de la faculté de penser. Je n'avais d'autre sensation que celle d'une douleur aiguë dans le côté droit, que me causait un rhumatisme et que chaque secousse redoublait. Cette douleur était si intolérable qu'un jour, les voiturins s'étant enfoncés dans un chemin que l'on réparait et qui était rempli de pierres, je perdis entièrement connaissance dans ma voiture. Une partie de mon supplice finit à Königsberg. Là, je repris la poste jusqu'à Berlin, où j'arrivai vers la fin de juillet 1801, à 10 heures du soir. Mais, en dépit du besoin que j'avais de repos, il me restait à éprouver les tourments de la douane. On me fit passer sous une grande voûte très sombre où j'attendis au moins 2 grandes heures. Ensuite, les douaniers voulaient garder ma voiture pour la visiter la nuit, ce qui m'obligeait à me rendre à pied jusqu'à l'auberge, et il pleuvait à verse. Je me débattais en français, ces hommes me ripostaient en allemand. Il y avait de quoi perdre l'esprit. On ne voulait seulement pas me permettre de retirer mon bonnet de nuit et de petites fioles qui contenaient des antispasmodiques, dont certes j'avais grand besoin après de pareilles scènes. Car, à force de crier avec ces barbares, j'étais enroué au point que je ne pouvais plus parler. Enfin, j'obtins que l'on me laissât quitter la douane dans ma voiture et je me rendis à l'auberge de la ville de Paris avec un douanier, vrai démon, qui, de plus, était ivre-mort. Il défaisait mes paquets, mes vaches, mettant tout sans dessus-dessous, et s'empara d'une pièce de mousseline des Indes brodée qui m'avait été donnée par Madame Dubarry lorsque je quittais Paris. Comme je ne voulais pas que l'on déroulât ma sibylle ni les études que j'avais faites de l'empereur et de l'impératrice de Russie, ma voiture fut cachetée et je pus enfin me mettre au lit, mais non sans un tremblement affreux qui ne me permit pas de dormir un seul instant. Le lendemain matin, de bonne heure, j'envoyai chercher M. Rempart, mon banquier, qui arrangea tous mes démêlés avec la douane. Il me fit rendre ma pièce de mousseline, à laquelle je tenais beaucoup, sans que j'eusse rien à payer, et les chefs des douaniers poussèrent la politesse jusqu'à venir chez moi me faire des excuses de ce qui s'était passé. M. Rempart, qui me guidait pour mes affaires pécuniaires, était un fort aimable homme dont je n'ai jamais eu qu'à me louer. J'allai dîner chez lui quelques jours après, et je trouvai là plusieurs de ses compatriotes qui joignaient à beaucoup d'instruction le mérite de n'avoir aucune pédanterie et dont la conversation m'intéressa beaucoup. 3 jours me suffirent pour me remettre de mes fatigues et je me sentais beaucoup mieux quand la reine de Prusse, qui n'était point alors à Berlin, eut la bonté de me faire dire de venir la trouver à Potsdam. Je partis. Mais ici, ma plume est impuissante pour peindre l'impression que j'éprouvais la première fois que je vis cette princesse. le charme de son céleste visage qui exprimait la bienveillance, la bonté, et dont les traits étaient si réguliers et si fins, la beauté de sa taille, de son cou, de ses bras, l'éblouissante fraîcheur de son teint, tout enfin surpassait en elle ce qu'on peut imaginer de plus ravissant. Elle était en grand deuil, coiffée avec une couronne d'épis de jais noir, ce qui, loin de lui nuire, rendait sa blancheur éclatante. Enfin, il faut avoir vu la reine de Prusse pour comprendre comment, à son premier aspect, je restais d'abord comme charmée. Elle me fixa le jour de la première séance. « Je ne puis, dit-elle, vous la donner avant midi, car le roi qui passe la revue tous les matins à 10 heures est bien aise que j'y assiste. » Elle désirait que j'eusse un logement dans le château, mais sachant qu'il aurait fallu pour cela déranger l'une de ces dames, je remerciai et j'allai me loger aussitôt dans un hôtel garni, voisin du palais, dans lequel j'étais fort mal sous tous les rapports. Mon séjour à Potsdam n'en fut pas moins une véritable jouissance pour moi, car plus je voyais cette charmante reine, plus j'étais sensible au bonheur de l'approcher. Elle parut désirer voir les études que j'avais faites d'après l'empereur Alexandre et l'impératrice Élisabeth. Je m'empressai de les lui porter, ainsi que mon tableau de la Sibylle que je fis remettre sur châssis. Je ne saurais dire avec quelle grâce elle savait me témoigner qu'elle en était satisfaite. Elle était si aimable et si bonne que l'attachement qu'elle inspirait tenait tout à fait de la tendresse. Je me plais à rappeler tant de marques de cette gracieuse bienveillance dont elle me comblait jusque dans les moindres choses. Par exemple, j'avais l'habitude de prendre du café tous les matins et dans mon hôtel garni, l'on m'en donnait qui était toujours détestable. Je ne sais comment il se fit que je le dise à la reine qui, le lendemain, m'en envoya d'excellents. Un autre jour, comme je lui faisais compliment de ses bracelets qui étaient dans le genre antique, elle les détache aussitôt et les met à mes bras. Ce don me toucha plus peut-être que celui d'une fortune, et ces bracelets-là ont toujours depuis voyagé avec moi. Elle eut aussi la bonté de me faire donner une loge au spectacle tout près des places qu'elle occupait habituellement. De cette petite distance, je me plaisais par-dessus tout à la regarder. Son charmant visage avait 16 ans. Pendant une de nos séances, la reine fit venir ses enfants, qu'à ma grande surprise, je trouvais laids. En me les montrant, elle me dit « Ils ne sont pas beaux ». J'avoue que je n'eus pas assez de front pour la démentir. Je me contentai de répondre qu'ils avaient beaucoup de physionomie. Ces enfants, depuis, ont beaucoup changé à leur avantage. Celle qui est maintenant impératrice de Russie a fort embelli. Je parlais souvent à la reine de mon amour pour la campagne et pour les beaux sites. Elle désira que j'allasse voir son île des Pans. Une de ces voitures m'y conduisit. On arrive à ce lieu charmant par une épaisse forêt de sapins que l'on traverse, puis on descend un chemin rapide qui vous mène à un lac sur lequel est située l'île des Pans et son petit château. Le temps était triste, il pleuvait même, et ce séjour ne m'en parut pas moins élyséen. Outre les 2 études au pastel que me faisait faire Sa Majesté, je fis de la même manière celle de la famille du prince Ferdinand. Je devais plus tard copier tous ces pastels à l'huile, ce que j'ai fait aussitôt mon arrivée à Paris. Une des jeunes princesses, la princesse Louise, qui avait épousé le prince Radziwill, était jolie et très aimable. J'ai eu pendant quelque temps avec elle une correspondance qui me charmait, car je la compte au nombre des personnes qu'il est impossible d'oublier. Son mari, le prince Radziwill, était fort bon musicien. Je me rappelle qu'un jour, il me causa une surprise qui tenait uniquement à la différence des usages de tel ou tel pays. Pendant mon séjour à Berlin, on me mena à un grand concert public et je fus étonné au dernier point, en entrant dans la salle, de voir le prince Radziwill qui jouait de la harpe. Jamais chose semblable ne pourrait avoir lieu chez nous qu'un amateur, surtout un prince, se mit à jouer devant une autre société que la sienne, et une société payante. Il faut croire qu'en Prusse, cela semblait tout naturel. C'est à Berlin que je fis connaissance avec la baronne de Krüdener, si connue par son esprit et son exaltation de tête. Sa réputation comme auteur était déjà faite, mais elle n'avait pas encore acquis le caractère d'apôtre religieux qui l'a rendue si célèbre dans le Nord. Elle et son mari ont été très obligeants pour moi. » J'en puis dire autant de Madame de Souza, ambassadrice de Portugal, dont je fis alors le portrait. Il m'arrivait d'ailleurs, comme à tous ceux qui courent le monde, de retrouver plusieurs gens de connaissance. Je revoyais entre autres avec grand plaisir le comte et la comtesse Golovkin que j'avais connus à Pétersbourg. Je vis arriver à Berlin la charmante actrice Madame Chevalier. Elle était fort riche. Aussi ai-je su depuis qu'après avoir divorcé, elle avait épousé un jeune homme attaché à la légation française. À mon arrivée à Berlin, j'avais été faire une visite à l'ambassadeur de France, le général Bournonville, car j'abordais enfin l'idée de retourner à Paris. Mes amis, mon frère surtout, m'en sollicitaient vivement. Il leur avait été facile de me faire rayer de la liste des émigrés, et j'étais rétablie dans ma qualité de Française, qu'en dépit de tout, je n'avais pas perdu dans mon cœur. Le général Bournonville était un brave et bon militaire que l'on estimait beaucoup à Berlin. Il me reçut à merveille et m'engagea de la manière la plus flatteuse à retourner dans ma patrie, m'assurant que l'ordre et la paix y étaient complètement rétablis. Quoique le général Bournonville fût le premier ambassadeur de la République que je l'ai trouvé, j'en avais déjà vu d'autres. Vers la fin de mon séjour à Pétersbourg, le général Duroc et M. de Châteaugiron étaient arrivés à la cour d'Alexandre, envoyés par Bonaparte, et je me rappelle que, me trouvant à cette époque chez l'impératrice Élisabeth, je l'entendis dire à l'empereur « Quand donc recevrons-nous les citoyens ? Quand donc recevrons-nous les citoyens ?» M. de Châteaugiron vint me faire une visite. Je le reçus de mon mieux. Mais je ne saurais dire l'effet que me fit cette cocarde tricolore. Quelques jours après, ils dînèrent tous deux chez la princesse Galitzine Boris. Je me trouvai placé à table près du général Duroc, qu'on m'avait dit être l'intime de Bonaparte. Il ne me dit pas un seul mot, et j'en fis de même avec lui. Le dîner dont je parle donna lieu à une chose assez plaisante. Le cuisinier de la princesse, dans l'ignorance totale où il était de la Révolution française, prit naturellement ces messieurs pour les ambassadeurs du roi de France. Voulant leur faire honneur, après avoir longtemps rêvé, il se souvint que les fleurs de lys étaient les armes de la France et il se hâta de mettre les truffes, les filets, les pâtés en fleurs de lys. Cette surprise concerna si fort les convives que la princesse, dans la crainte sans doute qu'on ne l'accusât d'une aussi mauvaise plaisanterie, fit monter le chef de cuisine et l'interrogea sur cette pluie de fleurs de lys. Le brave homme répondit d'un air satisfait « J'ai voulu faire voir à son Excellence que je sais ce qu'il convient de faire dans les grandes occasions. » Une femme de mes amis, fort spirituelle, me dit alors tout bas « Plût à Dieu que les cuisiniers et les marmitons n'en eussent jamais su davantage. » Peu de jours avant mon départ de Berlin, le directeur général de l'Académie de peinture vint, avec une grâce infinie, vint m'apporter lui-même le diplôme de ma réception à cette académie. Tant de marques de bienveillance dont on me comblait à la cour de Prusse m'auraient bien certainement retenu plus longtemps si mon plan n'avait pas été alors tout à fait arrêté. Décidé à partir, je pris congé de cette charmante reine, si jeune, si belle, si aimable. J'ignorais, hélas, que bien peu d'années après, j'aurais la douleur d'apprendre sa mort. J'ignorais quelle infâme calomnie se joindrait au revers de la guerre pour la conduire au tombeau à la fleur de Soninge. Jamais je n'ai pu lire alors les bulletins de l'armée de Bonaparte sans ressentir une indignation qu'il m'est impossible d'exprimer. Je me souviens qu'à cette époque, me trouvant à l'Opéra de Paris dans la loge de la comtesse Potocka, il y vint un Polonais qui arrivait de l'armée française. Certes, un Polonais n'était pas suspect quand il défendait une puissance du Nord. Je lui parlai des indignes mensonges qu'on se permettait sur la liaison de la reine de Prusse avec l'empereur Alexandre. Ce jeune homme répondit « Rien n'est plus faux, on écrit tout cela pour égayer les bulletins. » Et cependant, l'aimable créature que l'on prenait pour victime lisait ses horreurs, et le chagrin qu'elle en ressentait, joint à tant d'autres chagrins, hâta peut-être sa mort.